Dimanche 15 mai, l'association Arts et Livres organise la fête du livre de Sainte-Afrique. Romans, polars,
poésie, littérature jeunesse.
Plus de 50 auteurs, libraires et éditeurs.
Causeries, conférences, ateliers d'écriture créative.
Mais aussi dessins et expositions. Rendez-vous dimanche 15 mai de 10h à 17h à la salle des fêtes de Sainte-Afrique. Entrée libre et gratuite.
Et tous les jours de la semaine, émission spéciale sur notre antenne à 10h15.
Régine Foulquier est originaire du plateau d'Yme dans le Nord Aveyron. En se réinstallant dans le village de ses racines, les souvenirs ont ressurgi. Voilà que Régine Foulquier s'est mise à écrire, comme un besoin, quelque chose qui devait arriver. Le choix de son ouvrage intitulé « Traces sur la Sala », publié aux éditions du Bord du Lot, s'est porté sur un abécédaire. En 26 mots, 26 petits textes, renaît toute une époque, des instants de vie entre la cité industrielle et le monde rural. Extrait.
Le chemin. Il grimpe doucement sur la drette de la colline. Au départ, il prend de grands airs de grand seigneur. Il est large et entretenu. Une haie d'aubépine taillée une ou deux fois l'an, le borde d'un côté, tandis que de l'autre, une prairie lui ouvre le regard à perte de vue. Sur le couloir, entre les collines qu'empruntait autrefois la voie ferrée des Houillères, pour acheminer le minerai de fer et le charbon entre Decazeville et Marcillac. Il est plein de promesses. Nous amener là-haut, sous les fondaisons des grands chênes qui coiffent le coteau. Contourner la colline, à mi-hauteur, sous les murailles dressées par les anciens pour soutenir les vignes en terrasse, aujourd'hui disparues. Ah, il en a connu de la vie ce chemin, dans ce pays de collines et de vallons, quand il reliait un hameau à un autre, conduisaient les paysans à leurs prés pentus, où les bœufs, attelés, tiraient les charrettes de foin, rares et difficiles à gagner. Quand les parcelles de vignes aux ceps tordus et rabougris, accrochées aux flancs de la colline, résonnaient des rires et des conversations des vendangeurs, des cris du charretier pour faire reculer l'attelage jusqu'à la cuve pleine, remplie de raisins noirs, des raisins dégoulinants d'un jus épais qui tachaient les doigts, et que les enfants engloutissaient les joues rebondies, le jus débordant autour de leur bouche pour s'en faire des moustaches à faire peur. Il en a vu passer ce chemin, des troupeaux de vaches, blanches et noires, tranquilles et indolentes, balançant leur queue sous la chaleur de juillet pour chasser les mouches de leurs flancs, chauds et odorants. Souvent, c'est un enfant de mon âge qui suivait le troupeau, un bâton à la main. Tandis que son chien gambadait à côté, reniflait les buissons, et puis à l'appel du jeune berger, poussait au jarret, en appuyant celle qui lambinait trop sur le bord du chemin, à brouter l'herbe défendue. Ah, que le passage du troupeau était attendu pendant mes vacances d'été. Promesse d'après-midi à jouer ensemble dans les arbres, dans la cabane construite entre les branches du grand chêne à la lisière du pré. Aujourd'hui, le chemin est recouvert, près de la maison, d'une herbe sauvage, rare et épaisse, régulièrement coupée qui en fait un tapis, une moquette douce aux pieds. Il est charmant et engageant, il monte en pente douce. Après une centaine de mètres, il tourne légèrement et la vue dégagée de part et d'autre. Il offre au regard sur sa gauche un large panorama coloré, une mosaïque de prairies, de champs, de haies et de taillis, sur des successions de collines de plus en plus bleutées, jusqu'à la pointe brune de l'ancienne terrille de Decazeville, recouverte d'arbres, et dont seule la forme pointue, artificielle, dans ce pays de collines rondes, témoigne d'un passé minier qui n'est plus. Sur la droite du chemin, le regard s'étale dans l'entonnoir vallonné au fond duquel serpente alors la voie ferrée. Les yeux se reposent au vert des prairies et des crêtes boisées, avant de s'arrêter au fond, sur la barre bleue, qui délimite les terrasses du Rougier et le plateau calcaire de Nus. Dans ce pays vallonné, les cieux y sont immenses, larges et profonds. Et là, à cet endroit, le chemin dont vient l'observatoire idéal pour assister l'été au spectacle grandiose des couchers du soleil flamboyant, quand les rouges, roses, orangés s'éclairent en s'empressant de se mêler, avant de disparaître dans la ligne rouge de l'horizon, au-dessus du noir marine de la terre alentour. Il est encore ce chemin une loge de premier rang pour les levées de pleine lune en août, lorsqu'elle surgit de la bordure noire de la forêt, précédée d'un halo lumineux de la nuit bleutée. Il monte en pente douce, il remplit ses promesses, il borde enfin, après un léger virage, un tout petit verger à l'abri d'une muraille de pierres sèches et rouges. Et puis il se perd, soudain dans la petite prairie pentue, pour renaître plus haut, en secret, à la lisière de la forêt de chênes centenaires dans laquelle il pénètre lentement. Là, il devient bientôt sauvage, encaissé, inégal, parcouru de pierres irrégulières, creusé d'ornières, de terres rouges plus ou moins profondes et bordées de bruyères, où se cachent parfois quelques ceps aux têtes noires. Et malgré des fils de fer barbelés sans scrupules, dressés aujourd'hui dans son travers, il continue, Kayankara, son bonhomme de chemin, en serpentant à travers le bois de chêne, pour se perdre à nouveau sur la crête déboisée, couverte de bruyères et de fougères, d'où se découvre l'envers du décor. C'est alors un autre panorama, large et profond, de rangées successives, bleues, marines, violettes, de collines et monts, jusqu'au fin fond parfois grisé et brumeux des plateaux d'Aubrac. Et puis au premier plan, sur l'envers boisé et sombre de la colline, une bruyère dense et des châtaigniers décharnés au tronc creux, sous la voûte hirsute, desquels il reprend timidement sa descente, lente et sinueuse. C'est un chemin secret et endormi. Il en est bien ainsi.
Deuxième extrait, le banc public. C'était un banc de fortune, une longue et large poutre, posée sur deux socles, à l'ombre d'un grand acacia et au coin supérieur de la place où passait l'ancienne voie ferrée. Il siégeait en position dominante sur la place, elle-même au centre du village, à l'époque tout en longueur. Les soirs d'été, il était entièrement occupé par les femmes du village, par les anciens, les enfants aussi, pendant que les hommes jouaient aux quilles ou à la pétanque. En journée, dans les heures creuses de l'après-midi, les enfants s'y retrouvaient en été, quelques voisines aussi, emmenant là leur ouvrage de tricot tout en bavardant. On regardait passer les voitures, les autobus, avec des commentaires. C'était un va-et-vient à l'acacia, ainsi qu'on appelait l'endroit. L'acacia, c'était le lieu de rendez-vous du village, le lien, l'endroit où l'on était bien. Le banc est encore là, rarement fréquenté. L'acacia, lui, a vécu. Mais sur l'autre place, en face, une salle des fêtes a poussé, bordée de vrais bancs en fer avec dossiers peints en vert et ombragés par des acacias plus récemment plantés. Une place animée désormais de façon orchestrée, 4 ou 5 fois l'an. Pour le reste des jours, les bancs sont désertés.
Retrouvez cet auteur dimanche 15 mai à la fête du livre à Sainte-Afrique.